France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Sarah Nemtanou, je suis née à Bordeaux en 1981 et je suis violon solo à l'Orchestre National de France.
Le premier concert avec Kurt Mazur, vous vous en souvenez?
Ah ouais, je m'en souviens, ouais. J'ai cassé une corde. Mon père était dans le public et on jouait la sérénade pour cordes de Bartok. Il y a un grand solo dans le final et dans le début du dernier mouvement. Et je tourne la page entre le troisième mouvement et le final. On commence et à peine deux notes, ma corde claque, ma corde mi. J'avais pas de corde sur moi. Et là, il se trouve que le co-chef d'attaque des seconds violons me tend une corde tout de suite et il est roumain. Il s'appelle Constantin Bobesco. Et évidemment, il se connaissait avec mon père parce qu'il est à peu près de la même génération. Et il me tend une corde, je change ma corde, Kurt Mazur me regarde et il me dit en anglais « stay calm ». Je change ma corde devant tout le monde, mon père qui se liquéfie évidemment, mais voilà, je prends mon courage à deux mains, je change cette corde, sachant dans mon esprit que ah ça va se désaccorder, j'ai un solo tout de suite, j'ai beau l'accorder, mais une corde ça tient pas tout de suite, il faut quelques minutes. Voilà, donc je commence en beauté. Mon premier concert c'était au studio 104, je m'en souviens vraiment très très bien, mais bon, ça se termine bien. Un peu désaccordé, mais ça se termine très très bien. J'ai réussi le challenge. Le challenge de changer une corde en public. Voilà, c'est pas facile.
Alors, le rôle du violon solo, si on doit l'expliquer aux auditeurs, quel est-il exactement, Sarah Nemtanou? Aussi humain que musical?
Oui, c'est vrai que...
C'est la courroie de transmission entre le chef et l'orchestre, c'est...
Ouais, c'est ça, mais c'est pas facile parce que... on a beau le savoir, on découvre quand même des choses qu'on ne doit pas faire forcément. Alors j'ai cette chance-là d'avoir eu de précieux conseils, une sorte de 10 commandements de la part de mon père. La première des choses, c'est pas personnellement, tu ne prendras mal certaines phrases. Voilà, c'est la chaise qui prend, c'est pas toi. Et ça, c'est vrai, le poste veut qu'on ait certaines réflexions. Voilà.
À 20 ans, on est préparé?
Ben, vu ce que j'avais vécu, on pouvait pas faire pire que, voilà, c'est quand même de voir sa mère mourir aussi. Donc, c'est ce que je me disais, moi. Et à ce moment-là, j'étais un peu en thérapie, donc j'avais effectivement beaucoup de soutien. Donc, c'est vrai que, pour moi, il y avait plus grave. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, j'étais bien conseillée. Et j'avais, c'est vrai, ce naturel, ce côté souriant, nonchalant et très sérieuse dans le travail, dans le sens où mes partitions d'orchestre étaient extrêmement bien préparées. Vous pouvez pas me reprocher une seconde de pas connaître la partition. Donc j'étais rassurée à ce niveau-là. Et C'est vrai que le rôle du violon solo, je l'ai appris et je continue de l'apprendre. C'est vrai que c'est un rôle plutôt artistique, où, à mon sens, il faut faire vraiment preuve d'empathie, dans le sens où on s'extrait quand même presque totalement de sa partie de violon et on est avec les autres, avec des antennes, avec beaucoup de concentration. J'essaye de faire attention à ce qui se passe dans le pupitre des bois, dans les percussions, à tel moment de l'œuvre. Ah tiens, là, il faut faire attention à la timbale. Ah d'accord, là, il y a ceci. Est-ce que là, on est trop fort? Est-ce que là, oui, peut-être il faut changer le coup d'archer? Il faut penser, on est un pilote d'avion, quoi, vous voyez? Mais je trouve ça génial parce qu'on a un rôle aussi de diplomatie entre le chef et les musiciens. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps, et je l'avoue, à avoir une certaine autorité. Parce que pour moi, l'autorité, je m'imposais, si vous voulez, par le fait que Kurt Masur, au début, m'a totalement validé, m'a totalement soutenu et faisait tout humainement pour que les gens adhèrent. Et je veux dire, je leur rendais. J'étais prête, j'étais là, il n'y avait pas de problème de niveau. Mais peut-être que c'est vrai que j'étais jeune. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'osais pas trop dire certaines choses, dire bon bah là, je pense que ça maintenant, ça suffit, il faut mettre les points sur les i, on peut pas continuer comme ça sur ça. Là, je peux pas accepter que ce soit pas en rythme et qu'on n'écoute pas le thème au bois. On recommence, je demande au chef, j'arrête la répétition. Je n'osais pas faire ça jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et voilà, donc il y a des choses qu'on apprend. Par de très bons conseils, il y a des choses qu'on apprend par soi-même et que le temps fait qu'on apprend. Et j'adore ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'atteins vraiment presque l'alignement, quoi, où je me sens en phase avec ce que je pense et ce que je dis.
Une forme de plénitude.
Voilà, c'est ça.
Vous dites violonistiquement, c'est intéressant, Sarah Nemtanou, parce que voilà, quand on est premier violon solo, on est obligé de maintenir son niveau coûte que coûte, on ne peut pas se permettre de baisser. Il y a quelque chose de très difficile, j'imagine, qui est à la fois de se fondre dans la masse, et puis pouf, à un moment, d'être celui qui
mais
va être en lumière.
Exactement, mais comment vous savez tout ça?
C'est difficile.
Mais non, mais c'est une très 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 bonne question. Parce que c'est vrai, je vous le dis, et je ne suis pas la seule à le penser, le solo de violon en orchestre, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses. Le moment le plus délicat, c'est la première répétition. Jouer devant ses collègues, ne pas décevoir. Et se dire, oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oh là là, il faut pas, oh là, je joue en plus. Souvent, c'est un chef d'orchestre, qu'on connaît pas, ou que c'est pas forcément notre directeur musical avec qui on fait les solos. Et, le directeur musical, la répétition d'après, on va accompagner, souvent un autre violoniste, du genre, Janine ou Joshua. Donc, il y a de la concurrence. Donc, tout ça fait qu'il y a une énorme pression. Il faut dire aussi que quand on joue à l'orchestre, on ne s'entend pas. Donc, il y a une perte de qualité, parfois de son, et d'exigence dans la justesse aussi, parfois. C'est pour ça qu'il faut doublement entretenir ça. Mais un peu, c'est pas un travail de longue haleine. Hein. C'est une fois qu'on le sait, il faut pas passer à côté de ça. Donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une vie d'Aéro. Il y a 2-3 pages avant le grand solo de violon où on joue très très fort, on ne s'entend pas, il y a beaucoup de cuivre. Et c'est très touffu au niveau de l'orchestration. Et d'un coup, on apparaît et pendant une page et demie, on est tout seul au monde. Parfois, voilà, il y a un petit accompagnement de harpe où il y a les cuivres qui interviennent ou un petit motif qui se répète. Mais c'est tout. On est vraiment seul au monde, avec des doubles cordes, avec... C'est un caprice de Paganini, quoi, c'est ce solo. Et en plus, il faut que ça ait un sens. Et en plus, il faut que ça ressemble à Strauss, quoi. Faut pas que ce soit du violon, parce que Strauss a voulu exprimer dans ce solo plein de choses. Et il y a beaucoup de sarcasme. Il y a une indication par mesure de caractère. Donc c'est, faut penser à mille trucs à la fois, quoi. Donc c'est ça qui est très très difficile. C'est vrai. C'est une manière de jouer. Je trouve qu'on se comporte pas pareil quand on accompagne vraiment un concerto et un soliste que quand il y a un solo de violon spécifiquement. Donc faut être là, faut être doublement présent. Et ouais, et le track pendant les solos, je me souviens, non mais j'ai vécu un des moments. Voilà, il y a un an, en janvier dernier, nous faisions une tournée avec l'Orchestre National de France, avec Emmanuel Krivine, et nous étions donc en Allemagne et en Autriche. Et on accompagne Julia Fischer dans le concerto numéro 1 de Prokofiev. Et femme extraordinaire, vraiment. J'ai énormément appris en la regardant, simplement en la regardant jouer, parce qu'il y a une force immense sans aucune tension musculaire. Et ça, mais c'est génial. Et ça m'a confortée, voilà, dans le travail que je fais depuis quelques années. Et qui je vois à Berlin, dans cette fameuse philharmonie, au quatrième rang, juste avant le Scheherazade et juste après son concerto, Julia Fischer, qui se met confortablement dans son siège et qui vient écouter le Scheherazade avec ce grand solo de Rimsky-Korsakov, ce grand solo de violon qui commence au début, qui est un petit peu tout au long de l'œuvre, dans cette fresque musicale. J'adore cette œuvre. Et voilà. Alors là, tout allait bien. Mais je vous jure, tout allait bien 20 minutes avant. Je tourne la tête et là, mon cœur s'emballe. Comme lors de mon premier concert avec l'Orchestre National, je n'ai jamais vécu de trac plus vif que lorsque je dois faire un solo d'orchestre. Mais il y a des solos où la plupart du temps, 80%, ça va, c'est un trac normal, j'y vais, c'est cool, on a répété, ça va, je suis en confiance, je suis dans le challenge, comme ce que j'aime. Mais il y a d'autres moments où la raison est totalement absente. C'est-à-dire, c'est là...
Ça vous cueille.
Ah ouais. Non, mais là, je suis en panique totale. À l'intérieur de moi, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, mon cœur, je pense sincèrement, il bat à 150. Je n'entends que ça dans mes oreilles qui bourdonnent. Et je fais le truc un peu en pilote automatique. J'essaie de me ressaisir, mes enfants me manquent parce que c'est la première fois que je pars aussi si longtemps en tournée, parce qu'ils ont 4 ans et 2 ans à l'époque. Et je vois Julia Fischer, là, au quatrième rang, je suis à Berlin, il y a encore du public. Enfin, à l'époque, c'était pas du tout question de corona ou quoi que ce soit. Salle mythique, c'était pourtant la 5e fois que je le jouais de la tournée, c'était plutôt la fin de la tournée. Et voilà, un immense trac m'envahit. Je le joue, hein! Je le joue, ça va, je sauve les meubles, il n'y a pas de souci si vous voulez. Mais dans une souffrance extraordinaire, si vous voulez. Donc, je veux dire, il y a tellement de travail, il y a tellement d'expérience derrière que il n'y a pas de souci. Mes collègues n'ont pas remarqué. Mais moi, j'étais vraiment en souffrance et il n'y a que dans cette situation-là que c'est arrivé. Cette sensation physique atroce. Mais j'aime ça.
France Musique, les grands entretiens de Sarah Nemtanou.
Si on pense aux quatre, maintenant, chefs qui se sont succédés depuis que vous êtes Sarah Nemtanou à l'Orchestre National, et Kurt Masur, après Kurt Masur, Daniel Egatti, ensuite Emmanuel Krivine et maintenant Christian Macellaroux, quatre profils complètement différents, quatre cultures aussi totalement différentes. Il y en a qui sont violonistes aussi, d'autres pas. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette expérience? J'aurais aimé que vous nous fassiez part de cette expérience de vous avec le directeur musical, plus que de l'influence du directeur musical sur l'orchestre qui serait l'objet d'autre chose. Mais vous.
Ben, commençons par Emmanuel Krivine, parce qu'il y a une espèce de, aussi d'alignement. Donc, je l'ai rencontré pour la première fois, donc, lors de ce concert avec Gauthier Capuçon à la Cité de la Musique. C'était extrêmement bien passé et c'était génial, et voilà, j'étais en admiration aussi devant le violoniste et le musicien et ce qu'il avait réussi à faire avec l'orchestre de jeunes du CNSM qui nous ont accompagnés. J'avais l'impression d'avoir le New York Phil derrière moi quand j'avais voilà, j'avais 19 ans, mais j'avais un niveau d'orchestre exceptionnel. Et je l'ai recroisé. Ah oui. Attendez, regardez bien ce qui s'est passé avec Emmanuel Krivine. Je l'ai ensuite eu en tant que chef d'orchestre à l'Orchestre National de France, quand j'avais 24 ans. Donc ça faisait 3 ans que j'étais rentrée. Et là, ça s'est pas très bien passé. Parce que j'ai parlé d'un coup d'archer. Vous savez, comme il est violoniste, il annote toutes ses partitions. Il est très tatillon là-dessus. Et il a raison d'ailleurs, parce qu'il réfléchit au sens dans lequel on va jouer. Il réfléchit donc au coup d'archer. Et je m'étais laissée un peu influencer par certains de mes collègues qui disaient, et c'est vrai que je me sentais pas non plus super à l'aise avec un coup d'archer à un moment donné. Et je lui dis, s'il vous plaît, d'une manière un peu maladroite, je lui dis, s'il vous plaît, maestro, est-ce qu'on peut pas changer ce coup d'archer, là? Parce que bon, parce qu'on n'y arrive pas, ça sonne pas, je lui joue un peu avec mauvaise foi, on pourrait pas faire ça, et puis je lui joue ma proposition avec bonne foi. Il me regarde stupéfait. Genre, mais comment elle ose? Et donc, en gros, il a pas mal pris le contenu, mais je pense qu'il a été très étonné de la manière dont j'ai pu lui proposer ce changement, alors qu'il était violoniste et qu'il sait de quoi il parle. C'était surtout ça, je remettais en cause son choix. Et donc ça s'est mal passé, il est parti de la répétition, et j'ai dû toquer à sa porte, à la loge, et puis bon, on s'est revu le lendemain, le concert s'est très bien passé. Et je l'ai ensuite revu au Mahler Chamber Orchestra, où j'étais à l'essai, en tant que violon solo. Et il vient me voir en loge, et parce que notre loge était pas loin, et il vient me voir et il dit « Ah, j'ai l'impression que vous allez mieux, vous portez plus votre croix » ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit « Oui, oui, effectivement, oui, je me souviens de la dernière fois quand vous êtes passé, mais bon, c'est du passé, maintenant il dit « Bah bien sûr » et tout ça, et tout va bien. » Et puis après, il devient notre directeur musical, et j'appréhendais quand même un peu avec ce passif, avec, je sais pas, quand même, l'homme qu'il était. Je me disais, ça va être dur de le mettre dans ta poche, celui-là. il a pas fallu 6 mois pour que se crée une relation vraiment géniale. Et j'ai compris que, j'ai senti que je le réconfortais dans ma manière de jouer, parce que je buvais aussi ses paroles et que j'adhérais totalement à ce qu'il nous proposait, Emmanuel Krivine.
Mais c'est possible d'avoir comme directeur musical, en étant violon solo, Sarah Nemtanou, quelqu'un avec lequel on n'adhère pas?
Oui, totalement. On n'est pas tout le temps on n'adhère pas totalement, j'adhérais pas tout le temps à ce que nous disait Kurt Masur, ni Daniel Egatti, parfois dans certaines œuvres. Mais leur idée était tellement claire et tellement convaincue que c'est mon rôle d'y adhérer et de faire en sorte de les satisfaire. Mais pas dans le sens « je suis votre esclave ou votre servante », mais « je suis votre soutien, je suis là pour ça » et « allons-y, il n'y a pas de vérité, qui on est pour dire qu'il faut jouer comme ci ou comme ça ?» C'est vrai qu'avec Kurt Mazur, c'était un mentor, vraiment. Et puis, il parlait tellement avec passion de Beethoven, de Mendelssohn. Il recontextualisait tout le temps avant qu'on commence un cycle. Beethoven, Schumann, Mendelssohn. Il avait besoin, voilà, de nous parler du contexte, de composition de ses œuvres, de la politique à ce moment-là, à quel moment de leur vie ils étaient, les compositeurs. Et c'était très important pour lui d'associer ces moments importants par rapport à l'œuvre et à l'interprétation. Donc j'ai appris beaucoup ça avec Kurt Mazur. Enfin, j'ai aimé ça et son côté aussi très spontané, très cru parfois, qui était pas forcément bien pris, mais bon voilà, chacun est comme il est. Et puis avec Daniel Egatti, c'était je crois qu'il n'existe pas un chef avec une plus belle gestique. Que Daniel Egatti. C'était du caviar. C'est-à-dire que je venais à l'orchestre et il n'y a pas un geste pareil. Et puis, suivant l'œuvre, il adapte. Il fait ce qu'il veut. C'est un don exceptionnel qu'il a. Franchement, et beaucoup de gens le disent, mais là, je le dis en tant que violon solo, je n'ai jamais vu ça. Vraiment... Après, c'est un jeune chef aussi. Quand il avait, je sais pas, il avait 45 ans, 46 ans quand il est venu à la tête de l'orchestre et voilà, c'est aussi très agréable de sentir qu'on est en apprentissage ensemble.
Il vous a apporté l'opéra aussi.
Ah oui, et puis sa passion pour Wagner qui est indescriptible. Donc c'est, enfin, il a plusieurs fois pleuré aussi en concert. On le voyait vraiment. Alors que c'était quelqu'un d'assez réservé, mais parfois une larme pouvait couler, mais vraiment en retenue, hein, mais sans que ça déconcentre. Hein, mais c'est vraiment quelle émotion, quoi, dans le corps de ces hommes, quoi. C'est dingue et ça sort d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que dans le travail avec Daniel Egatti, c'était pas forcément évident ce côté-là sensible. Puis là, avec Christian Macellaru, c'est vrai que les points communs sont assez incroyables. Il était violon solo d'un orchestre en Floride et rentré à 19 ans, 20 ans. Il est roumain. Moi, j'ai 39 ans, on a un an d'écart, on est de la même génération. Voilà, on a failli se rencontrer lors d'un concert où je devais jouer le concerto de Brahms avec l'orchestre de la radio roumaine, justement, ça devait être en 2015. Mais il a dû annuler parce que je ne sais quoi, et il a été remplacé par un autre chef roumain, mais il me l'a redit il n'y a pas si longtemps. Sarah, je te dois un concerto de Brahms parce que c'est moi qui... Et ça m'est revenu, je dis, mais oui, c'est dingue. Il y a 6 ans, oui, je devais le rencontrer. Et j'avais eu aucun lien avec lui avant ça et avant de le rencontrer à l'orchestre. Et voilà, c'est un... Je pense que... Voilà, l'influence de Chilibidac, il a ce côté vraiment dans son interprétation où il veut que les choses sonnent. Tout est riche, tout est... Il veut que chaque note résonne et il y a énormément de richesse dans sa manière de diriger. Et c'est, voilà, quand je disais qu'on s'apporte mutuellement, là je pense que c'est l'exemple parfait d'un chef et d'un orchestre qui vont s'apporter mutuellement.
Thank you.
Le quatrième épisode des Grands Entretiens avec Sarah Nemtadou se referme sur ces accords wagnériens par l'Orchestre National de France dirigé par Daniel Egatti. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Philippe Mercher, mixage Pierre Monteil, attaché de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.